tipi, hutte, yourte, wigwam ou gitoun, les tentes en tout genre sont à la mode. Alors peut-être qu'en voyant cette tente ici ce matin, cela vous a rappelé des souvenirs. Qui d'entre vous a des souvenirs ce matin de tente? Ah, presque tout le monde, hein? Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de mains qui ne se lèvent pas. Ah ouais. Même des mains insistantes qui ont envie de m'expliquer qu'il s'est passé des choses. Peut-être avez-vous eu un orage et vous êtes-vous retrouvé totalement inondé. Je crois qu'il y en a plusieurs qui hochent la tête. Ou peut-être qu'un coup de vent a emporté votre tente et elle s'est retrouvée soudain à 50 mètres dans les arbres. Ça ne devait pas être ce type-là, parce que celui-là, ils ont tout prévu, c'est un ensemble, ça ne peut pas s'envoler. Hein? Mais voilà, on a peut-être tous eu des expériences un peu particulières avec les tentes. Mais bon, on se dit, ça fait partie du fun des vacances. Et parfois, on aurait tendance à oublier que certains réfugiés vivent dans des tentes, pas vraiment par choix, c'est pas vraiment des vacances pour eux. Et puis, il fut un temps où le peuple d'Israël vivait sous tente, quelle que soit la saison, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Et dans le désert, il fait froid la nuit. Donc, ça ne devait pas être de tout confort. Mais voilà, la tente avait l'avantage d'être facilement démontable. Et pour un peuple nomade qui devait régulièrement se déplacer avec ses troupeaux, eh bien, c'était une formule d'habitation assez pratique. Et vous savez qu'encore aujourd'hui, les Juifs fêtent chaque année ce temps de pèlerinage au désert où ils vivaient sous des tentes. Hein. C'est la fête de Soukhot. Soukhot qui vient de la souka, la tente, en hébreu. Et on nous dit dans la Bible que Dieu aurait même habité sous une tente, en allusion justement à ce temps où l'Arche de l'Alliance, hein, qui était une sorte de coffre dans laquelle étaient différents objets considérés comme sacrés, cette Arche de l'Alliance était mise dans une tente où avaient lieu les sacrifices, les cérémonies. Et voilà, c'était une tente, la tente de la rencontre les uns avec les autres, mais surtout la rencontre avec Dieu. Et cette tente, on l'appelait le tabernacle, et vous savez que dans l'Église catholique, il y a un tabernaculum qui est le lieu où on garde les hosties consacrées, hein, tabernaculum qui veut dire justement tente ou hutte. Donc bien sûr, la tente n'a pas en soi une vertu particulière pour nous permettre de rencontrer Dieu de plus près. Mais peut-être que la prochaine fois que vous irez passer quelques jours sous tente, eh bien, vous repenserez à ce message de ce matin et peut-être que vous vous direz, eh bien, je pourrais rechercher Dieu tout particulièrement et qui sait si ce lieu ne sera pas aussi porteur pour vous d'un moment particulier avec Dieu. À l'époque, les tentes étaient parfois faites de peaux d'animaux, mais le plus souvent, elles étaient tissées de poils de chèvre. Et comme les chèvres étaient souvent noires ou noires et blanches, ces peaux étaient de couleur foncée. Et le tisseur de toile était un métier. Hein, on sait que l'apôtre Paul l'exerçait. Alors les toiles étaient ensuite fixées au moyen de cordes et de pieux pour les faire tenir. Alors on imagine que pour les tendre à une certaine hauteur, il fallait tirer fort pour qu'elles tiennent vu leur poids. Et tout à l'heure, vous avez entendu ce texte que Frédéric nous a lu dans le livre d'Ésaïe au chapitre 54, où Dieu s'adresse à une femme abandonnée par son mari. On sait qu'à l'époque c'était rare, et lorsqu'une femme se retrouvait seule, elle était un peu considérée comme déficiente. C'était vraiment une très très grande humiliation. Cette femme, dans notre histoire, n'a plus d'enfant. Elle est donc seule pour essayer de se battre, pour essayer de survivre. Et survivre face à cette humiliation, ce déshonneur immense qu'elle a subi. Alors on peut l'imaginer dans une toute petite tente, encore plus petite que celle-ci. Et puis, Dieu lui lance un appel à néanmoins agrandir l'espace disponible. C'est là un acte de foi que Dieu l'appelle, car cette femme ne sait pas encore qui va venir partager son espace. Ce qu'elle peut pressentir, c'est qu'elle ne sera plus seule, que sa honte lui sera ôtée. Elle est donc invitée à acquérir des toiles supplémentaires sans regarder à la dépense, nous est-il dit, à les tendre, à rallonger ses cordes, à consolider ses piquets, parce que bien sûr, plus les toiles sont grandes, plus on a de la peine à faire en sorte qu'elles résistent au vent violent qui souffle dans le désert. C'est donc aussi un appel à résister que Dieu lui lance, un appel à exister. On croit parfois, parce que sa tente, symbolisant notre vie, notre existence, se serait rétrécie ou serait un peu rabougrie, que tout est perdu. Or, nous voyons que Dieu redonne une espérance à cette femme. Il l'invite à croire à une prospérité possible, comme il peut le faire pour nous aussi, lorsque tout nous semble désespéré. L'image de la tente, eh bien, le faiseur de tente qu'est Paul, l'apôtre, il l'utilise aussi pour parler de notre corps. Vous l'avez entendu dans la deuxième lecture. Paul laisse entendre que pendant le temps de notre vie sur cette terre, notre être profond serait comme protégé par une sorte de tente au caractère éphémère. Paul invite donc à ne pas se décourager si notre être extérieur se détériore. Entendez par là si nos articulations commencent à siffler et que notre corps n'est plus tout à fait aussi beau qu'à nos 20 ans. Car pour lui, l'important est que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Pour Paul, notre tente est cette partie de nous qui est appelée à s'envoler comme par un coup de vent. Et il représente le coup de vent représentant le passage de la mort. Et lorsque cette tente s'envole, eh bien, l'idée est que soit révélé l'édifice qui est au fond de nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Alors bien sûr, encore faut-il que nous laissions à Dieu le privilège d'accomplir son œuvre en nous, œuvre de restauration, de renouvellement, grâce à notre relation intime avec lui. Par moments, Paul parle de revêtir notre habitation céleste. Là, on a l'impression que c'est du solide. Afin que, dit-il, ce qui est mortel soit englouti par la vie. Car revêtir le Christ, c'est choisir d'unir notre vie à la sienne, afin que sa vie prenne toute la place en nous. C'est ainsi que nous n'avons pas à craindre d'être trouvés nus. Expression étrange, qui fait probablement allusion au jardin d'Éden. Le contraire de la nudité, selon les pères de l'Église, c'est être revêtu de la justice de Dieu. Alors, tout en nous réjouissant de quitter cette tente pour aller demeurer auprès du Seigneur, notre ambition ici-bas devrait être de lui plaire, sachant qu'un jour, la justice de Dieu sera manifestée. Les injustices dont nous aurons été victimes sur cette terre seront rétablies. Toutes les bonnes actions pour lesquelles nous n'avons peut-être pas été récompensés ici-bas seront mises en évidence. Et tout en nous sera récompensé à sa juste valeur. Il ne faudrait toutefois pas mépriser cette tente fragile qu'est notre corps, comme on l'a trop souvent supposé par le passé. En effet, une tente en mauvais état, déchirée, mal entretenue, nous abrite mal. Nous sommes donc appelés à en prendre soin, afin que nous puissions accueillir chacun notre vocation sur cette terre. À tout âge, notre Dieu a besoin de nous et notre tente n'est jamais trop vieille pour que le Seigneur en ait besoin. Ne perdons donc pas courage. Au début de cette épître, Paul a évoqué une épreuve où il pensait qu'il allait mourir. Il a accepté cette perspective dans la confiance en Dieu, le Dieu de la résurrection. Ayant fait ce chemin d'acceptation, eh bien, il n'a plus peur de la mort. À notre tour, aspirons à revêtir notre domicile céleste par-dessus notre tente terrestre. En d'autres mots, accueillons un bout d'éternité dans cette vie marquée par la précarité. Amen.